Bonjour à toutes et à tous, René Lavergne avec vous à l'antenne de Radio Campus 106.6 FM pour l'émission Quoi de neuf, comme chaque mercredi entre 16h et 18h. Une émission qui commence par du bruit et de la fureur aujourd'hui. Ah oui, nous avons plusieurs séquences dans cette émission, donc des séquences beaucoup plus calme, paisible, avec notamment la présentation ou l'ouvre-lance de cette nouvelle exposition au musée qui s'appelle Paysage, fenêtre sur la nature, donc la nouvelle exposition. Ensuite, nous irons faire un petit tour du côté des fake news qui sont présentées à la condition publique, l'art du mensonge en quelque sorte, à 17h30 sur notre antenne. Mais pour l'instant, nous allons parler théâtre. Mon invité est Pierre Fauvio. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Je suis très heureux de t'accueillir.
Merci beaucoup.
Alors, c'est vrai que tu as été dans l'histoire du théâtre de la région, quelqu'un d'important, avec des gens que tu as formés, accueillis, dirigés, un lieu aussi que tu diriges actuellement, que tu as fait renaître, pas de ses cendres, mais bon, c'est un peu comme ça aussi le théâtre, le Phénix.
C'est ça, c'est un peu, on a quand même un lieu maintenant à Saint-André depuis 13 ans qui est né un peu d'une, voilà, d'une fin d'une histoire pour en ouvrir une autre, et c'était le, c'est devenu de la MJC de Saint-André, on est passé au Zeppelin qui défend une diversité artistique et puis un rapport au public qui est somme toute, qui fonctionne très bien. C'est un lieu très convivial et en même temps avec une ambition artistique très forte et qui s'ouvre à toutes sortes de recherches entre les œuvres d'art et le public.
On peut peut-être rappeler quelques-unes de tes mises en scène célèbres et peut-être des acteurs que tu as accueillis, non moins célèbres d'ailleurs.
Oui, j'ai un parcours qui date un peu maintenant, puisque j'ai commencé mes premières mises en scène en 2001, après un parcours d'acteur assez diversifié, aussi bien qui empruntait des chemins du théâtre de rue et au théâtre de salle, et puis jusqu'à ce que j'ai eu l'envie de créer ma propre compagnie et de porter, en fait j'ai cette nécessité de porter des textes importants du répertoire, qu'ils soient classiques ou contemporains, et pour en citer quelques-uns, effectivement, j'ai abordé des auteurs comme Bernard-Marie Coltès, dont j'ai monté dans la solitude des champs de coton avec notamment Serge Bagdassarian et Alain Deyer. Ça a été d'ailleurs un événement assez important pour la région. Ensuite, j'ai effectivement abordé d'autres auteurs contemporains un peu emblématiques comme Sarah Ken, dont j'ai adapté le 448 de Psycho, notamment en clown, qui a fait aussi pas mal de bruit en Avignon, au Festival d'Avignon. Ensuite, j'ai travaillé aussi sur un répertoire qui m'a intéressé, puisque je l'ai découvert assez tardivement, mais qui me passionne toujours, c'est l'écriture de Shakespeare, notamment avec deux pièces importantes qui sont la tragédie de Richard III et puis celle de Macbeth. Avec, on va dire, une interrogation sur le fait que pour moi, Richard III reste une pièce politique qui parle bien de la tragédie des hommes, et tandis que Macbeth est bien une pièce un peu pièce de la nuit, plus psychanalytique, qui est pour moi plus la comédie des sorcières. Mais je continue quand même à travailler sur ces enjeux importants du texte. J'ai notamment mis en scène dernièrement, j'ai adapté La route du romancier Cormac McCarthy, de l'Américain, qui avait été un des romans phares sortis en 2006 en France, adapté au cinéma, avec notamment Viggo Mortensen. Et j'ai eu le plaisir de l'adapter au théâtre pour la première fois l'année dernière, et c'était une expérience assez étonnante, puisque je retournais aussi comme comédien au plateau avec un jeune homme qui avait 13 ans à l'époque. Et là, je viens d'achever la mise en scène et la présentation d'un auteur contemporain, Pau Miró, un auteur catalan qui est très peu monté en France et dont j'ai adapté pour la première fois en France la pièce Lyon, qu'on a présentée en début mars. Mais bon, après, ils sont nombreux, les textes auxquels je me suis confronté. J'ai monté pas mal de Marianne Bourg, Visage de feu, Cible mouvante. Enfin, voilà, j'ai une appétence pour les textes importants qui questionnent les replis de notre humanité. Je suis très attaché à essayer de comprendre un peu ce qui constitue un peu nos êtres particuliers dans leur rapport au monde, à l'autre. Comment on se construit, comment on s'émancipe de nos peurs, de nos comment on arrive à cultiver notre désir, de rester vivant, étant soi-même un monde en soi.
Non, le théâtre, c'est difficile de l'imaginer sans des acteurs, des comédiens. Peut-être qu'on pourrait faire un petit point des gens que tu as rencontrés, par exemple Serge Bagdasarian.
Oui, j'en ai croisé pas mal des comédiens, puisque j'ai effectivement travaillé avec Serge, j'ai travaillé avec Alain Dayer, mais j'ai travaillé aussi avec des acteurs que j'apprécie beaucoup, comme Nicolas Postillon, que la région connaît encore bien, parce que je pense qu'il est à l'affiche encore d'une des pièces actuelles de Arnaud Ancart. J'ai travaillé avec Catherine Germain, qui est une clown emblématique du théâtre contemporain et surtout une comédienne extraordinaire. J'ai travaillé avec des gens comme Hervé Furic, je travaille encore avec des gens comme Thierry Mettetal, mais il y en a quand même beaucoup. J'ai eu aussi le plaisir de diriger Julien Gosselin dans une mise en scène que j'ai faite en 2004 déjà, qui d'un texte d'un auteur contemporain qui s'appelle Nigel Williams. La pièce s'appelle Classe Ennemie. C'est une pièce qui a été écrite en 78 et montée jusqu'en 2018 un peu partout dans le monde et qui mettait en scène des jeunes lycéens en perdition, on va dire. Et c'était à l'époque, lorsque j'étais en résidence comme artiste associé au Bateau Feu, j'ai mis en scène 14 adolescents, une scénographie assez exigeante, une direction d'acteur qui l'était tout autant. Et à l'intérieur de ça, il y avait notamment Julien Gosselin, mais c'est pas le seul, parce qu'il y a aussi Émile Falk, un jeune comédien avec lequel je travaille toujours depuis des années maintenant. Ils avaient à l'époque tous 17 ans, ils étaient 14. Il a poursuivi après un parcours avec moi, puisqu'il était associé à la recherche sur le Psychostat 48. Et après, je l'ai accompagné pour qu'il rentre aussi à l'EPSAD. Et puis maintenant, on a le parcours qui est le sien, qui est assez exemplaire, qui est riche aussi de ces questions et d'une inventivité assez exceptionnelle. Enfin, voilà, j'en ai croisé plein, parce que en fait, j'aime aussi ça. C'est aussi les rencontres avec des acteurs aussi différents qui apportent leur singularité, parce que le théâtre est de toute façon quand même l'art de l'acteur, tout autant que celui du metteur en scène. Et c'est toujours un plaisir de rencontrer des personnalités d'une sensibilité souvent très forte. Il y en a plein, hein. Je pense à Marie Denis, je pense à Marion Lambert, enfin je pense à plein de gens, à Céline Dupuis, je pense vraiment à tous ces comédiens et comédiennes que j'ai eu le plaisir de diriger. Effectivement, ça a permis de construire des spectacles, je pense, qui, en tout cas, écrivent quelque chose du théâtre, à mon sens.
Et puis, bien sûr, il y a les auteurs, les grands auteurs, sachant que les prochains grands, on ne les connaît pas forcément tous. Hein. C'est souvent l'histoire qui les révèle, les grands auteurs. Mais bien sûr, on ne peut pas présenter le théâtre sans présenter Shakespeare. Hein. Et moi, je dois dire que c'est l'auteur, alors que je n'ai pas connu de son vivant, hein, mais que j'ai rencontré au travers d'un spectacle qui m'a marqué, qui était Macbeth, joué au Théâtre de la Planchette en 1983. Et c'est ça qui m'a révélé au théâtre, en fait, qui a révélé le théâtre à mes yeux complètement abasourdi de tant d'émotions, de complexité, et aussi du fait de peut-être présenter une forme d'humanité qui est beaucoup plus riche et plus complexe qu'on ne la présente habituellement.
Ah, je suis persuadé, c'est... Ayant aussi un parcours un peu singulier, puisque j'ai coutume de dire, mais je pense que c'est important et que ce n'est pas du tout une posture. Moi, c'est l'art qui m'a cultivé, c'est pas l'inverse. C'est-à-dire que si je suis arrivé au théâtre, c'est par la petite porte. Lorsque j'ai commencé, j'étais machino, puis électro. Voilà, j'ai eu un parcours un peu particulier. J'ai ensuite rencontré le théâtre de rue avec des compagnies comme le Royal Deluxe ou Ilotopie, par exemple, et même la Licorne, qui avait cette double étiquette de travailler à la fois dans la rue et sur les plateaux. Et voilà, j'ai une rencontre, moi, sensible et très organique avec le théâtre, puisque ma première pièce, c'était Dans la solitude sur le coton, mais montée par Sireuil à la Rose des Vents. Et j'étais complètement abasourdi par cette capacité que le théâtre pouvait présenter d'autres réalités et inventer des mondes dans lesquels je pouvais plus peut-être me projeter que le monde réel qui était pour moi et qui reste toujours assez complexe et parfois désarmant. Et donc j'ai mis un temps avant de rentrer dans le théâtre classique. J'ai d'abord monté effectivement du contemporain, parce que ça me semblait être la parole la plus proche de mon sentiment, de mon désir de converser avec le public. Et puis j'ai découvert effectivement les textes de Shakespeare. Et je trouve que c'est toujours une écriture d'une puissance incroyable, parce que effectivement, avec un langage qui est aussi poétique, mais d'une vision et d'une précision incroyable quant à décrire les sentiments des personnages que Shakespeare, les nombreux personnages que Shakespeare a mis en scène. Et c'est une parole qui vise très très juste à l'esprit et au cœur. Et moi, j'étais conquis, et à chaque fois quand je remets les doigts dans Shakespeare ou je pose les yeux sur ce qu'il a écrit, je suis quand même impressionné par cette capacité qu'il a à décrire ce que l'on est dans nos aspects à la fois monstrueux et amoureux, dans notre, en fait, la vision, la compréhension qu'il avait de l'être dans sa totalité, dans ses fondements les plus peut-être sordides, mais également peut-être les plus nobles. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu l'audace à l'époque, notamment parce que j'ai monté la première fois Richard III en 2009. De prendre les deux pièces peut-être les plus emblématiques en fait d'un répertoire, qui sont Richard III et Macbeth, et qui ont été pour moi, qui restent pour moi, des œuvres qu'on n'a jamais fini d'interroger, de parcourir, qui s'offrent au public comme autant de cadeaux sur c'est pas que des miroirs de notre société, c'est plus que ça pour moi, c'est des ombres qui éclairent nos lumières, ou c'est des lumières qui éclairent nos ombres, enfin c'est quelque chose qui est ultra contemporain, et il faut surtout pas s'excuser d'utiliser les mots du poète pour pouvoir s'adresser aujourd'hui à nos contemporains, parce que je pense que cette distance, cette vision, cette acuité qu'a Shakespeare pour parler du monde et de ce que nous sommes, nous pauvres vers, ça nous déplace de notre, peut-être de nos certitudes, et ça nous amène à pouvoir espérer cultiver un ailleurs qui est essentiel lorsque l'on veut poursuivre un chemin dans notre rapport à l'autre.
Voilà, donc c'est ultra contemporain, mais en même temps ça transcende le temps.
Ah mais complètement, je suis j'en suis intimement persuadé. En fait, par exemple, pour situer, on parle de Richard III, on en parlera beaucoup par rapport à la série radiophonique, mais c'est marrant parce qu'il y a un film actuellement, The Lost King, qui est au cinéma, qui retrace cette jeune personne qui a découvert les dépouilles de Richard III en 2012 sous un parking à Londres, et à Leicester. Et ce qui est intéressant, c'est de saisir que Richard III est beaucoup plus complexe, mais les pièces de Shakespeare sont d'une joyeuse complexité. Quand je dis joyeuse complexité, c'est parce qu'elles offrent beaucoup plus que ce qu'elles pourraient peut-être donner. Lorsque nous, on a monté Richard III en 2009, on n'a pas montré Richard III difforme, bossu, avec cette jambe de bois, cette difformité affichée comme telle. Et on a replacé cette pièce dans un conseil d'administration du multinational, où on ne sait pas si ce sont des politiques ou des mafieux qui s'adressent les uns avec les autres. Mais pour moi, c'est peut-être malheureusement souvent...
On ne va pas dire ça, on va nous taxer de complotisme.
Oui, peut-être.
On ne peut rien dire à la radio. Hein.
Et par contre, ce qui était vraiment absolument fabuleux, c'est de... Et nous, on a travaillé sur cette monstruosité qui était... Où on interrogeait la monstruosité à travers aussi le regard de ceux qui portent un jugement sur l'autre. C'est-à-dire que Richard III, voilà, tyran sanguinaire tel qu'il est décrit, on va pas tergiverser là-dessus, on pourra en discuter pendant des heures, mais le fondement de la mise en scène qu'on a décrite, de faire ce conseil d'administration où tout se passait en direct, non pas en off, et de pas mettre Richard III bossu, et de le rendre vraiment difforme et bestial à la fin de la pièce, c'était aussi cette proposition d'écrire au spectateur que c'est aussi parfois le regard de l'autre qui fait la monstruosité de celui dont on décrit être monstre. C'est-à-dire qu'en même temps...
Il nous fait peur de nous-mêmes.
C'est cette part de nous-mêmes qui est le reflet de l'autre. Et c'est pour ça que c'est... Et c'était marrant parce que, du coup, The Lost King s'est passé, notamment au Masque et la Plume, dimanche dernier. Et justement, il s'interrogeait à la fin sur est-ce qu'on va encore montrer Richard III difforme, boiteux, dans les mises en scène futures. Parce que moi, j'ai pas voulu afficher comme étant le... J'ai voulu que cette difformité-là, cette animalité se traduise dans un ailleurs qui était plus complexe, plus subtil peut-être, parce qu'en fait les monstres effectivement peuvent se cacher derrière la candeur de n'importe quel visage et sous n'importe quel costume en fait. Voilà, et en même temps c'est aussi l'écriture de Shakespeare qui offre toutes ces variations autour de ces pièces. C'est pour ça qu'on ne se lassera jamais de monter Shakespeare. C'est pas possible. C'est inépuisable. Il y a autant de Shakespeare possible qu'il y a de metteurs en scène ou de metteuses en scène qui ont ce désir d'y travailler et de s'en accaparer.
Alors, bien sûr, Shakespeare est aussi repris là, en ce moment, hein, va être pris par l'Opéra de Lille pour justement Falstaff, hein, de Verdi, oui, mais qui décline un personnage de Shakespeare. Et donc, c'est une source inépuisable d'inspiration et de conspiration.
C'est ça, c'est tout est dit, quoi. C'est une source effectivement inépuisable d'inspiration et de conspiration. En tout cas, je pense, et en plus, l'écriture de... Voilà, Shakespeare a écrit une série d'œuvres incommensurables. Il y en a tellement, des pièces de Shakespeare qui sont intéressantes. Et vraiment, ça me fascine, en fait, d'avoir pu écrire ça. Je m'interroge toujours, ce que je lis un texte de Shakespeare, comment réussir à avoir une telle perception de ce que l'on porte, ce que ces humains sont capables de porter, de colporter. Et effectivement, je trouve qu'il y a la place pour de multiples interprétations et réinterprétations. Je pense que ça sera... On n'en aura jamais fini avec une telle œuvre. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie pour ce premier numéro de cette série radiophonique qui essaie de créer des liens entre la littérature et puis les nouveaux usages artistiques et culturels, de créer vraiment des espaces entre littérature, jeunesse, la jeunesse, et puis en utilisant des nouveaux médias, ça m'a beaucoup plu de travailler à partir d'un tel classique, parce que je crois que j'ai très envie de partager cette passion pour les grands textes, qu'ils soient contemporains ou classiques. Hein. Et je pense que la littérature reste un terrain de jeu et ça favorise pour moi l'élévation de la pensée. Ça nous sort un peu notre réflexion. On regarde son nombril, son miroir, son monde à soi. Je pense que les grands textes permettent de regarder bien au-delà du miroir. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est archi nécessaire, quoi.
Alors, bien sûr, il y a comment on peut restituer une telle importance et une telle densité, et dans quelle durée, physiquement, hein, comment amener ça au public. Et là, bien sûr, il y a le théâtre avec certains metteurs en scène qui ont choisi des versions très longues où on passait des nuits, le songe d'une nuit d'été ou d'autres. Et puis là, cette forme, alors plus, comment on peut dire, peut-être plus facile d'accès par rapport à sa disponibilité, qui est la version podcast.
C'est ça, c'est... Après, la version podcast, elle est née d'une volonté que j'ai depuis très longtemps avec les voyageurs, avec l'équipe. J'ai coutume de dire que depuis que je fais de la mise en scène et que j'ai fondé la compagnie des voyageurs en 2001, je fais du théâtre de conversation. C'est-à-dire que je propose en fait une relation avec un public que je considère depuis le début également comme étant... Je m'adresse à chacun et pas à tout le monde, mais j'ai cette ambition d'échanger à travers les paroles du poète une relation au monde et des principes de discussion. Et l'histoire du podcast est venue aussi sur l'observation que l'on a, parce qu'on est tout le temps, nous, très à l'écoute du public, de son évolution, on est aussi hein, nous-mêmes un public, et d'essayer de décoder un peu vers quoi il se dirige, qu'est-ce qui l'inspire, quels sont... Et les nouveaux usages, ils sont présents, et c'est effectif. C'est-à-dire qu'en même temps, on ne va pas nier que le numérique est important, que le podcast est important, mais également l'espace et le temps sont des notions qui ont beaucoup changé sur l'écoute que l'on accorde à une pièce, à un film, à une exposition. Et cette notion d'espace et de temps, elle m'a semblé pertinente d'être interrogée, et notamment à travers, et c'est pas la seule manière, mais notamment à travers les podcasts. Et on a décidé vraiment de questionner le format de l'écoute. Et à travers, on a choisi Richard III de Shakespeare. Alors, il y a une anecdote qui est drôle, parce que c'est une petite digression, mais qui va faire sens pour ce que je vais raconter après. C'est que, effectivement, Richard III fait partie des œuvres, une des œuvres étudiées au baccalauréat, option théâtre, option lourde, c'est-à-dire choisie et pas facultative. Et c'est intéressant d'avoir cette proposition artistique d'un autre type. Alors, on a travaillé sur le format, et tout de suite, on a eu deux ambitions: format court, chaque épisode dure en moyenne 4 minutes 40 et un format et surtout très musical. On a fait autre chose, je pense, qu'une fiction radiophonique, c'est-à-dire on n'a pas, j'ai pas voulu que le son soit une illustration, un accompagnement. C'est pas une mise en, c'est pas un paysage sonore pour. C'est plus que ça. C'est vraiment une structure musicale qui sous-tend le texte et qui offre, à mon sens, en tout cas c'est ce qu'on a souhaité faire, la possibilité d'entendre les mots de Shakespeare d'une autre façon. Et surtout, c'est un format, voilà, il y a 22 épisodes de 5 minutes, mais encore une fois, c'est du Shakespeare, et le trait d'adaptation a visé aussi à rendre compte de l'œuvre, et sans aucune façon, ça a voulu la vulgariser ou la simplifier, quoi. Ça reste Richard III de Shakespeare.
Alors, peut-être quelques mots sur justement le son, d'où provient-il et qui l'a créé d'une certaine manière.
Alors ça, c'est génial parce que c'est Rémi Chaton qui est un musicien multi-instrumentiste qui a beaucoup de cordes à son arc et aussi à son violoncelle et qui travaille avec moi depuis le début d'ailleurs de, enfin pas qu'avec moi, mais de, on se connaît depuis mes premières créations comme metteur en scène en 2001. On a eu un, il m'a accompagné dans la solitude, il m'a accompagné dans beaucoup de mes travaux de mise en scène. Et c'est Rémi, après, qui a travaillé avec d'autres compagnies, d'autres metteurs en scène et metteuses en scène. Et qui c'est Rémi Chaton, donc, après avoir cherché, qui s'est collé à cette mise en musique de ces 22 épisodes. Et on a travaillé ensemble pendant plus d'un an, presque un an et demi, parce que il a fallu trouver le ton, il a fallu trouver le mouvement de la musique qui à la fois est une voix du podcast, tout comme les textes de Shakespeare. Et cette musique est une voix et en même temps, il fallait en trouver une singularité, une spécificité. Et surtout, il y avait 22 propositions à créer. Bien entendu, on entend l'univers de Rémi Chaton qui est toujours d'une très belle richesse. Et on a vraiment... Rémi n'a jamais lâché. On a travaillé sur plusieurs versions, mais parfois il y a jusqu'à 9 versions pour un épisode où on amendait des choses, où on discutait ensemble. Est-ce que c'est pertinent, ce mouvement musical-là, est-ce qu'il est pertinent ou pas? Encore une fois, pas pour illustrer, mais pour donner un souffle et une proposition d'écoute, une caisse de résonance au texte, en fait. C'est vraiment ce principe-là qu'on essayait de faire, c'est de créer une caisse de résonance pour susciter aussi, j'espère, le désir des auditeurs d'écouter un peu comme on écoute une chanson. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a et les paroles et la musique.
Et puis, il y a une dizaine, peut-être plus, d'ailleurs, de comédiens qui interprètent des rôles. Et... sur scène, bon, ils sont sur scène, ils sont ensemble, mais là, comment on peut intégrer la distance à la présence?
Alors là, c'était encore une fois, on est en recherche, on expérimente beaucoup de choses avec la compagnie Voyageurs. On a cette vraiment, c'est peut-être pour ça qu'on se définit comme un peu un laboratoire d'expérimentation et d'expression artistique et citoyenne, parce qu'on cherche à chaque fois des choses qui questionnent notre relation entre les œuvres et le public. Et là où on est avec les comédiens, c'est pareil, on a appris beaucoup de choses parce que ils ont travaillé 4 jours avec nous, on les a distribués dans des personnages, ils sont 11 en fait, et on a bien sûr accompagné sur la direction d'acteurs pour qu'ils puissent exprimer les uns et les autres ce qu'ils avaient à dire. Ils étaient ensemble. Et après, il y a eu tout un travail fait notamment avec Franck Dirazza sur cette extraction en fait après de ces voix les remettre ensemble dans un univers qui était somme toute différent. Eux n'ont jamais entendu la musique lorsqu'ils ont joué les pièces. Ils ont joué vraiment, les musiques ont bien été créées, les musiques ont été créées après les enregistrements. En aucune façon, les comédiens n'étaient au courant de ce qu'allaient devenir ces podcasts, ni même les césures, ou à quel endroit on allait couper, ce qu'on allait faire. Et c'est un vrai travail d'interprétation qui a demandé beaucoup d'énergie, de disponibilité de la part des comédiens.
Donc les comédiennes. On peut peut-être dire à ce moment précis qu'il y a 22 épisodes, c'est ça?
Il y a 22 épisodes,
oui. Je vais pas donner tous les titres, mais justement, comment ces titres ont été identifiés par rapport à des séquences bien précises?
C'est pareil, c'est ultra passionnant parce que c'est drôle, voilà, parce qu'effectivement, on a travaillé donc sur les épisodes, après on s'est dit, mais il faut quand même qu'on mette une phrase d'introduction et un résumé. Et puis, en même temps, il y a d'autres podcasts qui existent et sur lesquels je me suis penché aussi. Et je regardais un peu comment c'était écrit. Il fallait donc trouver, effectivement, ça nous semblait heureux de trouver un titre par épisode. Alors après, il y a des mots qui reviennent, qui sont un peu du langage, de qui pourraient être restitués dans l'œuvre de Shakespeare elle-même. Mais pour rien vous cacher, j'ai relu après tout le nom des épisodes de Game of Thrones, cette série qui est culte, qui a été présentée sur nos écrans et que beaucoup de gens ont vu. Mais plus pour comprendre un peu l'allégorie d'un titre. En quoi il fait référence et c'est à partir de cette évocation, on va dire, je parle bien d'évocation puisque j'ai exprimé des titres très différents, mais c'était intéressant de donner au titre une indication qui soit pas uniquement narrative, mais qui évoque aussi quelque chose qui a une des parts du mystère de l'épisode. Quoi. Voilà.
Alors. Bien sûr, j'ai envie de diffuser un de ces titres, une de ces œuvres, donc d'épisodes. Hein. Je n'ai vraiment que l'embarras du choix, tant certains titres sont d'actualité. Je pense par exemple à l'ignorance du peuple.
Ah oui, ça c'est l'arrivée du je crois que ces épisodes où l'arrivée du maire, c'est ça. Je ne sais plus lequel c'est. Il y en a, parce que je n'ai pas tous en tête, parce que je vois à quoi ça correspond. C'est quand effectivement le Richard III et le prince Buckingham arrivent à convaincre le maire qu'il va falloir qu'il raisonne quand même bien ses ouailles pour qu'il puisse accepter l'idée que Richard endosse cette lourde tâche d'être roi.
Ben voilà, donc l'ignorance du peuple, c'est peut-être le moment de faire ressurgir cet épisode très shakespearien aux oreilles de nos auditeurs sur Radio Campus.
Richard III ou la tragédie des hommes. Épisode 13, l'ignorance du peuple. Où Richard et Buckingham rendent compte au Lord Maire de Londres des traîtrises auxquelles ils ont dû faire face.
Monseigneur Lord Maire. Alors, que disent les citoyens ?
Par la Sainte Mère de notre Seigneur, les citoyens sont muets, ne disent pas un mot. Mais comme des statues muettes ou des pierres qui respirent, ils se dévisagent l'un l'autre, blafard comme la mort. Bien, Buckingham, je souhaite m'entretenir sans délai avec le duc.
Hélas, Monseigneur, il supplie votre grâce de venir le voir demain. Ou le jour suivant. Il est saintement adonné à la méditation et souhaite qu'aucune requête mondaine ne l'arrache à ce pieux exercice.
Retourne, Buckingham, auprès du gracieux duc. Dis-lui que moi-même et les échevins, sur de graves sujets, sur une affaire de grandes conséquences, qui n'intéresse rien de moins que le bien général, sommes venus conférer avec sa grâce.
Monseigneur, ce prince-là n'est pas un Édouard. Il n'est pas alangui sur un lit de luxure, mais à genoux, en méditation. Il n'est pas affolâtré avec un couple de courtisanes, pas en train de dormir pour engraisser son corps oisif, mais en train de prier pour enrichir son âme éveillée. Heureuse serait l'Angleterre si ce vertueux prince lui accordait la grâce d'être son souverain. Mais je crains fort que nous n'obtenions pas cela de lui.
Parbleu, à Dieu ne plaise que sa grâce nous dise non.
Je le crains.
Glorieux Plantagenet, très gracieux prince, prête une oreille favorable à nos requêtes et pardonne-nous d'interrompre tes dévotions et ton zèle très chrétien.
Monseigneur, il n'est pas besoin d'une telle excuse. Je supplie votre grâce de me pardonner si, dans mon ardeur à servir mon Dieu, j'ai différé de recevoir mes amis.
Mon Dieu, cette tête,
c'est la tête de Lord Hastings. J'aimais si chèrement cet homme que je ne peux m'empêcher de pleurer. Je l'ai pris pour l'être le plus candide,
le plus inoffensif qui ait jamais respiré sur la terre en chrétien. J'en avais fait le livre où mon âme inscrivait l'histoire de toutes ses pensées secrètes. Il barbouillait son vice d'un si doucereux semblant de vertu, qu'hormis sa faute manifeste, avouée, je veux dire son commerce avec la femme de Chore. Il vivait à l'abri de tout soupçon.
Oui. Oui, c'était le traître le plus dissimulé et le plus retranché. Pouvez-vous imaginer, ou même croire, que ce traître captieux, aujourd'hui, avait comploté de nous assassiner dans la salle du conseil, moi et mon bon seigneur de Ghost?
Il aurait fait cela?
Quoi? Vous croyez que nous sommes des Turcs ou des infidèles? Et que nous aurions, contre les formes de la loi, procédé aussi hâtivement à la mise à mort du scélérat, si l'extrême péril de la circonstance, la paix de l'Angleterre et la sécurité de nos personnes nous avaient forcés à cette exécution?
Grand bien vous en advienne. Il a mérité sa mort.
Nous n'attendions de lui plus rien de bon depuis qu'il avait lié commerce avec Mistress Shore. Pourtant, nous n'entendions pas le mettre à mort avant que votre seigneurie fût présente pour assister à sa fin. Ainsi, vous pourrez instruire les citoyens qui peut-être peuvent mal interpréter nos actes et déplorer sa mort.
Mais mon bon seigneur, les paroles de votre grâce y pourvoiront aussi bien que si je l'avais vu et entendu parler. Et n'en doutez pas, très noble prince, j'informerai nos fidèles citoyens de tous vos justes procédés dans cette affaire.
Les mêmes, j'espère, qui plaisent à Dieu là-haut et à tous les hommes de bien de notre île à gouverner. Laissons cela. Quel est le bon plaisir de votre grâce?
Nous voudrions qu'il plût à votre grâce sur nos instances d'amender sa faute.
Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, l'émission Quoi de Neuf, comme chaque mercredi entre 16h et 18h. Nous sommes toujours avec Pierre Fauvio. Merci Pierre donc pour ce beau moment encore, alors que c'est un épisode de cette série de 22, donc Richard III ou La tragédie des hommes, donc production de la compagnie Les Voyageurs, les voyageurs du monde.
Je ne sais pas si on est du monde, mais en tout cas d'un monde, c'est sûr. On voyage dans un monde qu'on invente et qu'on essaye de réinventer, peut-être même de réenchanter le plus souvent possible.
Alors dans cet épisode, on ressent bien toute la distance entre Dieu, les princes, on va dire, et les hommes, le peuple.
C'est ça, c'est le passage. C'est d'ailleurs très intéressant parce que c'est un des passages calmes. Il y a 22 épisodes, donc il y a 22 écritures musicales qui sont très différentes, puisqu'il y a des choses beaucoup plus rythmées, beaucoup plus parfois rock, presque dansantes dans certains épisodes. Et là, c'est vraiment le moment où Richard III et Buckingham veulent convaincre donc le maire de pouvoir convaincre le peuple du bien fondé de l'accession d'un Richard III au trône, et alors qu'il vient d'assassiner un des ducs Hastings dans l'épisode juste avant, quoi. Il est on quitte un tortionnaire, un tyran, pour retrouver cet homme qui, avec cette manipulation, ce qu'on lui reprochera tout le temps, et ce qu'on lui définit comme tel, cette capacité à manœuvrer pour accéder à ses finalités. Et là, pour le peu, c'est le maire qui semble opiner du chef, et il va pouvoir effectivement convaincre le peuple que c'est Richard III, le futur roi.
Alors, les épisodes ont comme premier, on va dire, je ne sais pas si c'est une tête de chapitre, c'est le lancement, hein, dans la chambre des morts, et ça se conclut par l'épisode 22, un cheval pour un royaume. Est-ce que ça respecte la chronologie et l'organisation interne, on va dire, de ce Richard III de Shakespeare?
C'est une adaptation qui rend compte vraiment de l'œuvre de Shakespeare. L'adaptation a été construite sur une contraction en fait des familles de personnages, c'est-à-dire que dans Richard III il y a énormément de personnages, la pièce est très fastueuse à lire, donc on a contracté en fait les personnages, les familles, pour qu'elles deviennent, qu'il y ait moins de personnages mais qui portent tous les paroles essentielles qu'il y a dans l'œuvre de Shakespeare. Après, sur l'ordre elle-même des scènes, j'ai pris moi la liberté de commencer par la Chambre des Morts, qui est en fait les obsèques du roi Henri VI, et où Lady Anne va être soumise, et c'est intéressant, à la première rencontre avec Richard. Le dernier épisode est effectivement l'ultime combat de Richard III, lorsque Richemont, revenant de France, vient le combattre pour mettre fin à son royaume.
Voilà donc cette création, hein, on la livre aujourd'hui en partie ici sur nos ondes. Quel est le destin de cette œuvre ?
Alors, on espère vraiment qu'elle soit le plus largement possible diffusée, forcément, parce que je pense que c'est encore une fois offrir aux auditeurs la possibilité d'entendre une œuvre majeure d'une manière tout à fait très différente. C'est encore une fois, les épisodes durent 5 minutes, on peut les écouter dans le bus, on peut les écouter chez soi, on peut les écouter de 36 000 façons. Et c'est vrai que le corps enseignant s'avère qu'il est très intéressé par ce travail, donc va l'exploiter avec des élèves. Et nous, on s'est amusé à le faire écouter aussi à de jeunes lycéens, et ce qui était et ça leur parle en fait, parce qu'ils écoutent et ils comprennent le sens de l'histoire. C'est-à-dire que même ceux qui n'ont pas lu Shakespeare ou qui ne sont pas... Il n'y a pas besoin d'avoir lu Shakespeare pour entendre le récit. Il n'y a pas besoin de... Mais c'est un peu ce que j'essaie d'expliquer à des... Parfois à des commanditaires ou à des gens qui ont rapport avec la culture, c'est qu'ils me disent « Ah ouais, mais Shakespeare c'est compliqué, la langue est compliquée. » C'est pas plus compliqué que toutes ces chansons que les gens apprennent par cœur sans comprendre le sens. Et à un moment donné, le sens se révèle aussi petit à petit. Moi, j'ai une immense confiance sur la capacité que les uns et les autres ont à entendre quelque chose pour après mieux le comprendre. C'est-à-dire qu'il faut... Il y a une histoire qui se raconte. Et les subtilités de ce qu'elle les subtilités doivent s'offrir à chacun dans le temps qui lui est nécessaire et avec l'esprit qu'il a. Et je pense que c'est pas complexe, c'est profond, c'est intéressant, c'est poétique, mais c'est encore une fois, ça reste à mon sens totalement accessible. Si on écoute le premier épisode, on comprend tout à fait ce qui se passe tout de suite. On comprend qu'il y a des obsèques de quelqu'un, que quelqu'un fait une éruption, qu'il interpelle la dépouille, qu'il interpelle la fille de la personne qui est décédée, et qu'il y a une opposition, qu'il y a une opposition entre deux familles, en l'occurrence les Lancastres et les York. Et que la tragédie va se mettre en branle. Mmh. Et je pense qu'il y a pas mal d'émotions aussi. Il y a une chose qui est très importante aussi par rapport à cette œuvre qu'on a choisie, et qui m'interroge toujours beaucoup, parce que je pense que ce n'est pas toujours le cas, malheureusement, dans les mises en scène qui sont faites de cette pièce, c'est que le rôle des femmes est essentiel dans Richard III. Pour moi, c'est peut-être le personnage principal c'est ce qu'on oublie trop souvent dans les pièces. Je suis d'ailleurs étonné pour certaines mises en scène, parce qu'en fait, que ce soit à travers Élisabeth, à travers la mère, ou à travers la reine Margaret, la reine déchue, la présence des femmes et le rapport qu'elles ont d'opposition avec le tyran est absolument d'une folle modernité et d'un intérêt, pour moi, essentiel. Et dans notre adaptation, comme dans cette proposition de podcast, on sent la parole des femmes comme ayant une importance. Le rôle de la mère de Richard III, notamment de la duchesse, est essentiel. Elle a une scène magnifique, mais magnifique, où elle répudie en fait son fils qui a déjà exécuté ses frères, qui a déjà participé à la mort de ses frères pour accéder à ses fins. Et la voix de Margaret qui prédit la déchéance des uns et des autres est importante. Le combat que livre Elisabeth pour préserver sa fille du destin que lui prédit Richard III. Et c'est une mère qui défend sa fille, sa vie. Je pense que c'est Shakespeare... Et là, vraiment, je réfléchis, je prends une seconde, mais je trouve que c'est il y a de magnifiques rôles de femmes dans Shakespeare, comme s'il y avait déjà une compréhension de la modernité de la place de la femme dans cette société. Faut pas oublier que Élisabeth Ier est une héroïne, quoi. Digne des plus, c'est une femme qui a porté très fort cette légitimité d'être reine et de mener un royaume. Et dans Richard III, il y a aussi ces paroles de femmes très, 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 très présentes, interprétées admirablement par Marie Denis, par Fanny Gosset, il faut les écouter.
Alors, pour moi, Richard III, c'est sans doute ce que je trouve de plus incroyable dans l'œuvre de Shakespeare, franchement. Même si Macbeth, au départ, m'a séduit par, un coup de poing, d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus après cela, Pierre Fauvio?
Après Richard III ou ouais, après...
Après Richard III.
Ah, je pense très sincèrement... Bon, voilà. En fait, il y a le projet que l'on porte avec les voyageurs est le suivant. C'est qu'on a décidé de mener une recherche pendant 4 ans autour de comment, effectivement, on met en partage un patrimoine immatériel, donc à travers un texte littéraire, avec un public le plus large possible qui ne va pas venir vers ce texte de la même façon. Les podcasts, ça s'ouvre auprès d'un public plus jeune, peut-être aussi des gens qui écoutent maintenant la radio. On va travailler à partir de la rentrée en lien avec la métropole européenne de Lille, que je remercie d'ailleurs, sur la mise en place d'un parcours dans l'espace public Richard III, avec en réalité augmentée. Ensuite, on va travailler sur un concert, Richard III, vraiment une formule très concert, pour arriver à une œuvre où, justement, on souhaite mettre en scène Richard III et Macbeth dans une seule et même pièce enchaînée, comme si la fin de Richard III était le début de la pièce de Macbeth. C'est-à-dire comme si la mort de la fin de la journée était le début de la nuit, comme si la fin de la pièce politique devient le début du cauchemar, le début des... Et c'est pour ça que je pense que... Effectivement, Richard III, c'est la pièce du verbe. C'est pour ça qu'elle porte si haut, en fait, cette puissance d'un texte. Tandis que Macbeth, c'est plus la pièce du non-dit. Effectivement, ces voix de l'ombre qui nous interpellent. Et c'est différent, mais ça participe ça questionne les mêmes endroits. Sincèrement, nous, on est enthousiastes à porter à la fois la parole de Shakespeare. Je pense qu'il y a énormément de pièces de Shakespeare qui nous séduisent parce qu'elles sont toutes, elles sont pour la plupart vraiment admirables à lire, et qu'elles soient les pièces historiques ou les comédies ou les tragédies. Mais après, j'ai tout autant aussi de plaisir à partager, par exemple, la parole d'un poète comme Coltès, mais également comme Mayenburg. Parce que ces paroles sont puissantes, elles aiguisent en fait notre perception du monde, mais plus peut-être que du monde, de celle de ce que l'on est au fond de nous-mêmes, de nos mystères que l'on porte en nous, en chacun d'entre nous, et notre capacité à regarder l'autre comme il est, au-delà peut-être encore une fois de simplement une perception lointaine. C'est pour ça que voilà, je pourrais passer ma vie à remonter Shakespeare tout le temps.
En tout cas, c'est vrai que pour le public, ce qui est peut-être l'essentiel, c'est de montrer, de démontrer l'extrême complexité du monde et des humains.
C'est ça. Et c'est pour ça que si le dernier épisode, qui est le plus court, c'est la fin de Richard III. Et je trouve qu'il est, à chaque fois que je l'écoute, ça s'est admirablement rendu, il faut bien le dire, par Nicolas Postillon. Il y a une émotion qui fait d'un monstre, malgré tout, un humain. Alors c'est terrible à dire ça aujourd'hui, parce que des monstres, il y en a partout. Mais en même temps, il y a une part d'humanité qui se révèle avec ce dernier épisode de cet homme qui commence à avoir peur.
Bien, Pierre Fauvio, merci. Je pense qu'on va terminer par tes propos, mais aussi par ce dernier épisode.
Avec plaisir.
Torturé par sa conscience, livre son ultime combat.
Monseigneur de Buckingham, pourquoi ce regard si triste ? Buckingham ! Il va y avoir des coups, n'est-ce pas ? Quelle heure est-il ? Bien-aimés concitoyens, au nom de Dieu, brandissez vos étendards, dégainez vos armes impatientes. N'oubliez pas qui vous devez affronter, une horde de vagabonds, de crapules et de pleutres, écume de bretons, misérables bouseux, que leur pays écœuré vomit, pour les vouer au désespoir et une mort certaine. Pour moi, la rançon de mon audacieuse entreprise sera peut-être mon cadavre froid sur la froide face de la terre, mais si je réussis au gain de mon entreprise, le moindre d'entre vous aura sa part. Dites-moi l'heure qu'il est. Donnez-moi un calendrier. Qui a vu le soleil aujourd'hui ? Personne ? C'est qu'il dédaigne de briller. Il devrait enflammer l'Orient depuis une heure. Ce sera un jour noir pour quelqu'un. Et pitié, Jésus. Conscience, comme tu me tortures. Les lumières brûlent bleues. C'est à présent la mort de minuit. De froides gouttes de peur se figent sur ma tremblante chair. De quoi ai-je peur ? De moi-même ? Il n'y a personne d'autre ici. Richard, M. Richard. À savoir moi et moi. Y a-t-il un meurtrier ici ? Non ! Si. Moi. Alors fuyons ! Quoi ? Me fuir moi-même ? Pour quelle raison ? De peur que je me venge ? Quoi ? Moi-même ? De moi-même ? Hélas, j'aime moi-même ! Pourquoi ? Pour m'être fait du bien à moi-même ? Me déteste plutôt pour les actes détestables commis par moi-même. Je suis un scélérat. Non, je mens. Je n'en suis pas un. Bouffon de toi-même, parle honnêtement. Bouffon, ne te flatte pas. Ma conscience a mille langues différentes. Et chaque langue raconte une histoire différente. Et chaque histoire me condamne comme scélérat. Parjure au plus haut degré, meurtre, atroce meurtre au plus cruel degré. Absolument tous les péchés, tous commis au suprême degré, se pressent à la barre et crient tous coupables, coupables. C'est à désespérer. Pas une créature ne m'aime. Cheval. Mon royaume pour un cheval. Un cheval. Un cheval. Mon royaume pour un cheval. Un cheval. Un cheval. Mon royaume pour un cheval. Un cheval.
Voilà donc une série à retrouver sur le site du Zeppelin, lezeppelin.fr. Et merci, un grand merci. Et puis je propose bien sûr à tous les éditeurs d'écouter la série au meilleur moment qu'ils ont dans la journée ou de la nuit pour l'apprécier. Merci Pierre Fauvio pour ce beau moment.
Merci beaucoup de votre accueil, merci beaucoup.
Vous écoutez Radio Campus 106.6 FM, campuslille.com et en DAB+, sur la métropole lilloise et sur l'Artois.